Il est 21h à Bamako et à Nouakchott. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, nous démarrons une semaine consacrée à la rétrospective des événements marquants qui ont touché la région sahélienne en 2014. Premier arrêt au Mali où une grande désillusion politique a fait place à l'espoir suscité par les élections. Nous serons ensuite en Mauritanie pour évoquer les progrès effectués par le mouvement anti-esclavagiste.
Il y a un contraste entre l'effort législatif pour la lutte contre l'esclavage et l'attitude de ces mêmes autorités par rapport à l'Irak Mauritanie et à son président Birame Zaoul Abeid.
Notre correspondant Brahim Dia à Nouakchott. Enfin, gros plan sur le site Africa Vivre qui fait la part belle aux cultures africaines. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Au Zimbabwe, la purge continue au sommet de l'État. Le président Robert Mugabe a limogé aujourd'hui deux ministres d'État, Flora Buka et Sylvester Nguni, ainsi que cinq ministres adjoints. Tous ont perdu leur poste pour incompétence selon un communiqué de la présidence. Le président Mugabe a viré la vice-présidente Joyce Mubuuru il y a deux semaines. Elle était considérée comme la dauphine du président nonagénaire. Depuis lors, un certain nombre de ses alliés au sein du gouvernement ont également perdu leur position. En Tunisie, l'ex-premier ministre tunisien Beji Caïd Essebsi a remporté la présidentielle de dimanche devant le président sortant Moncef Marzouki. Des précisions, Idi Sengo.
L'instance électorale a annoncé la victoire de Beji Caïd Essebsi avec 55,68% de voix, victoire que les camps de ces derniers revendiquaient déjà dès la fermeture des bureaux de vote dimanche. D'après l'instance supérieure indépendante pour les élections, M. Caïd Essebsi a obtenu plus de 1,7 million de voix au second tour, contre plus de 1,3 million pour son rival, Moncef Marzouki, le président sortant, qui a plutôt réuni 44,32% des suffrages. Les taux de participation s'étaient établis à 60,1% des inscrits. Les présidents sortants, Moncef Marzouki, a reconnu sa défaite à la présidentielle et félicité les vainqueurs Beji Caïd Essebsi, selon une annonce faite sur sa page officielle de Facebook. M. Marzouki avait, lui, été élu pour 3 ans par l'Assemblée constituante à la faveur d'un accord politique avec les islamistes d'Ennahda. Deux heurts ont éclaté lundi dans le sud de la Tunisie où certains habitants protestaient contre les résultats de la présidentielle.
Au Nigeria, l'explosion d'une bombe a fait au moins 20 morts et 21 blessés dans une gare routière près de la ville de Gombe. C'est la deuxième fois cette année que cette station de bus est attaquée. Une voiture piégée avait fait 10 morts au mois d'octobre. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le nord-est du Nigeria est une région régulièrement frappée par le groupe islamiste Boko Haram. Le frère de Bertrand Bilal Nzoa Bonayo, français d'origine burundaise, abattu samedi en France après avoir agressé des policiers dans un commissariat du centre de la France, a été arrêté à Bujumbura, la capitale du Burundi. C'est ce qu'a annoncé le Service national de renseignement, le SNR. Les enquêteurs burundais cherchent notamment à savoir quand les frères nés dans une famille chrétienne et qui ont immigré en France en bas âge ont basculé dans l'islamisme pur et dur et vérifié s'ils ne préparaient pas un attentat au Burundi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Escalade dans le froid entre Washington et Moscou, les États-Unis ont décidé de remplacer par des citoyens américains tous les employés locaux ayant rang de superviseur dans leur ambassade et consulat en Russie. La mesure intervient alors que les relations entre les deux pays en sont à leur niveau le plus bas. Elle est prescrite par un projet de loi sur les renseignements introduit en main par le député républicain Mike Rogers du Michigan et approuvé par le Congrès le 9 décembre. On s'attend à ce que le président Barack Obama promulgue la loi avant la fin de l'année. Et puis, dans son discours aujourd'hui aux membres de la Curie au Vatican, le pape François a eu des mots durs pour ses proches collaborateurs, qualifiant l'Église d'hôpital de campagne. Le pape a repris la métaphore du corps malade affaibli par ses péchés, parmi eux l'absence d'autocritique par la Curie qui pourrait mener à un Alzheimer spirituel avec l'oubli de l'histoire du salut dans la vie. Vous écoutez VO Afrique, place maintenant à la suite de Sahel Plus, Claire Morin-Gibourg.
« Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Cette semaine sera donc consacrée à la rétrospective des événements marquants pour le Sahel en 2014. Nous démarrons cette série d'analyses et de points de vue par le Mali. Après des élections plébiscites en 2013 où le président Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka, a été élu avec 77% des voix, le Mali a vécu une année 2014 difficile avec la débâcle de l'armée malienne à Kidal en mai 2014 et une recrudescence des attaques terroristes dans le nord du pays depuis la fin de l'été. Boukari Daou, directeur de publication du quotidien Le Républicain, revient sur cette année difficile pour le Mali.
Je crois que c'est un peu le mot des illusions politiques avec la situation actuelle. Comme on dit, le Mali est comme un navire qui tangue bien, mais qui ne chavirera pas. Nous allons continuer de croire à cet adage qui est bien de chez nous. Maintenant, ce qui concerne la situation, l'année 2014 a commencé sous de bons auspices. Pour ceux qui voulaient bien croire au discours à la nation du président de la République, qui a placé l'année 2014 sous les signes de la lutte contre la corruption. Parce que chez nous, c'est le fléau qui frappe le plus de défis, le plus grand défi que les Maliens donnent de relever.
L'année 2014 a été marquée par la défaite de l'armée malienne à Kidal.
Bien sûr, suite à une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a eu un entêtement du pouvoir à vouloir recouvrer l'intégrité territoriale de façon militaire par la guerre. Et c'est cela qui a conduit à un des aveux. Voilà, l'armée envoyée au nord sans préparation aucune. Donc on pouvait s'attendre à ces revers.
La sécurité et la réconciliation nationale ont été vraiment les deux chevaux de bataille d'Ibeka pendant sa campagne. Est-ce que vous avez l'impression que cette situation peut être réglée?
Elle va être réglée, mais je crois que l'année 2014 quand même va être perdu parce que les négociations sont plongées dans un alignement de la représentation même de l'État malien qui est en cause à Alger. Même si on a un accord, ce ne serait pas pour tout de suite et ce serait difficilement un accord voulu par le peuple malien.
Alors, autre dossier difficile, l'économie est toujours en berne, même si l'État s'est payé un avion présidentiel qui a fait beaucoup parler. Quel regard portez-vous sur l'économie en 2014 au Mali?
L'économie est en berne parce que le défi et le fléau qui nous frappe, c'est la corruption et c'est la délinquance financière. L'année 2014 a été marquée par des marchés faramineux portant sur des centaines de milliards dont l'audit a révélé vraiment des pratiques incroyables. L'achat de l'avion présidentiel en est un cas. Et les contrats de fourniture de matériel et d'équipement militaire sont des cas. Des cas qui ont été révélés par la presse. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à la suspension de la coopération par le FMI.
Alors avec toutes ces difficultés, dans quel état d'esprit se trouvent les Maliens en cette fin d'année 2014?
Bon, le pouvoir, tant bien que mal, essaie de faire croire qu'il n'y a pas de feu à la demeure, mais les Maliens sont vraiment dans une délusion, dans un réveil en catastrophe. Les Maliens n'ont pas compris comment de telles pratiques peuvent avoir libre cours et qu'il n'y a même pas de sanctions, qu'on ne parvient même pas à extirper des rangs les auteurs de ces crimes. Vraiment, la population est désillusionnée aujourd'hui et je vous avoue, le panier de la ménagère est pratiquement vide. Vous allez au marché, vous voyez les femmes qui viennent acheter les condiments au marché, retournent le panier pratiquement vide parce qu'il n'y a plus d'argent dans la circulation.
Boukari Daou, directeur de publication du quotidien Le Républicain. Suite de notre rétrospective 2014. En Mauritanie, le mouvement de lutte contre l'esclavage aura gagné du terrain et de la visibilité avec la reconnaissance onusienne du combat des abolitionnistes, mais aussi des actions concrètes du gouvernement. Des signes prometteurs si plusieurs militants anti-esclavagistes, dont le président de l'IRA, Biram Ould Daould Abed, n'avaient pas été arrêtés en novembre dernier. Notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia, revient sur cette année particulière.
On peut remonter un peu vers fin 2013, où Biram Daa Abeid, président de l'IRA Mauritanie, une organisation de lutte contre l'esclavage, a été désigné prix des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ça a été quand même une consécration mondiale qui tranche un peu avec l'attitude des autorités mauritaniennes qui n'ont pas encore reconnu l'IRA. C'est d'ailleurs avec cette étiquette de prix des Nations Unies pour les droits de l'homme que Biram s'est porté candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2014. Bon, il y a eu, c'est vrai, le boycott de l'opposition traditionnelle, mais il est quand même arrivé, c'est vrai aussi, loin derrière le président élu Mohamed Ould Abdelaziz, mais il est arrivé deuxième de cette élection, ce qui symboliquement a été extrêmement important. Il y a autre événement aussi, en mars 2014, il y a eu l'adoption de la feuille de route sur l'éradication de l'esclavage, une feuille de route adoptée avec le concours de Gulnara Shahinan, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage. Alors, cette feuille de route comporte 29 mesures qui sont d'ordre juridique, économique et social pour la lutte contre l'esclavage et les pratiques esclavagistes.
Une agence spécialisée pour l'insertion des esclaves a même été créée, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Il s'agit de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Cette agence mène actuellement des actions dans les localités de l'intérieur du pays, des localités majoritairement peuplées de descendants d'esclaves. Il s'agit d'actions comme la construction de postes de santé, la construction de salles de classe, etc. Bon, cette agence est une structure étatique dans laquelle sont quand même représentées des organisations de la société civile.
Alors concrètement et peut-être un peu historiquement, quelles sont les mesures qui ont été prises pour lutter contre l'esclavage en Mauritanie?
Sous la pression des ONG de défense des droits de l'homme, on peut remonter jusqu'à 2007 où une loi incriminant les pratiques esclavagistes a été votée. On est allé encore un peu plus loin en 2012 avec une révision constitutionnelle qui érige l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il y a la feuille de route dont on vient de parler et il y a également la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes d'esclavage.
Et alors malgré tout ça, l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, n'est toujours pas reconnue par les autorités mauritaniennes. Comment vous expliquez ce double discours en quelque sorte du gouvernement?
C'est vrai qu'il y a un contraste entre l'effort législatif qui est fait en Mauritanie pour la lutte contre l'esclavage et l'attitude de ces mêmes autorités par rapport à l'IRA Mauritanie et à son président Biram Daoud Abeid. Bon, il se trouve que ce qu'on reproche à Biram, ce que les autorités lui reprochent et ce qu'une partie de l'opinion mauritanienne aussi lui reproche, c'est un discours jugé un peu violent et qui stigmatise un peu une partie de la communauté, c'est-à-dire que la communauté arabe blanche, si on peut dire, de Mauritanie. Alors, son discours est jugé violent et jugé dangereux pour l'unité nationale. Et il se trouve encore que parmi les organisations de défense des droits de l'homme, il est le plus virulent et il est allé au-delà de la stricte défense des droits de l'homme, au-delà d'une simple ONG pour se lancer dans la politique.
Nous retrouverons demain Brahim Dia, notre correspondant à Nouakchott, pour la suite de cette analyse. Page culture pour finir l'émission et aujourd'hui, gros plan sur un site internet dédié aux cultures africaines. Un site dynamique qui suit la sortie des films africains, détaille les programmes des expositions et critique les livres. Nous avons rencontré son fondateur, Maxime Bonin.
Le projet Africa Vibes, c'est surtout en fait de vivre l'Afrique à travers ses cultures. L'idée, c'est que quand on n'a pas la chance d'être en Afrique, eh ben on a la possibilité de continuer à vivre l'Afrique en allant au cinéma, en lisant de la littérature africaine, en écoutant de la musique africaine. Voilà, donc c'est ce que propose Africa Vibes.
Et vous, pourquoi vous avez monté ça? Vous me disiez tout à l'heure, c'est un peu se bouger pour l'Afrique.
Oui, c'est se bouger pour l'Afrique, c'est surtout continuer à vivre l'Afrique, c'est promouvoir les cultures africaines, les médiatiser, les faire connaître et aussi les commercialiser, puisqu'on a une boutique qui vend donc en ligne des livres, des CD, des DVD.
Mais d'où est est venu, est parti ce projet?
Alors le projet est parti de mes voyages en Afrique évidemment, mais surtout du retour où on est soudainement déconnecté du continent, on a vécu sur place des moments incroyables et donc la question que je me suis posée c'est comment continuer à vivre quelque part l'Afrique. Et la meilleure des questions c'est encore une fois les cultures africaines, donc la musique, la littérature, la danse, le cinéma, et donc c'est ce qui m'a motivé pour créer Africa Vivre.
Et vos derniers coups de cœur alors?
Alors le dernier coup de cœur musique c'est Mori Kanté, la Guinéenne, avec Mori Kanté qui donc reprend le format grand orchestre. Ça donne un album vraiment très dynamique et c'est du grand Mori Kanté.
Et en littérature?
Alors en littérature c'est un essai sur le Congo qui retrace toute l'histoire du Congo Kinshasa, ex-Congo belge, et c'est incroyable de voir tout ce qu'a connu ce pays en 100 ans.
Donc le titre est de l'auteur?
Le titre c'est Congo une histoire, et c'est Congo une histoire de David Van Reybrouck. En termes de DVD, des classiques comme Bamako, qui donc parle de nouveau de la spirale qu'a connue l'Afrique avec malheureusement tout ce qu'a pu imposer le FMI et la Banque mondiale. Et on est au cœur d'un village qui fait le procès du FMI et de la Banque mondiale. Donc bon, c'est un classique, mais je trouve qu'il est bien au goût du jour.
Maxime Bonin, fondateur du site Africa Vivre. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Michel Joseph. À la technique, Joe Gill. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Mori Kanté et la Guinéenne. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Quand j'ai le chagrin.